Radio Anathème.
Et nous voilà. Alors ce soir, comme nous l'avons annoncé depuis le début et sur un peu partout sur les réseaux sociaux, nous avons voulu, Cathy et moi-même, une fois de plus, vous me direz, partager notre témoignage de vie. Souvent il nous arrive des choses, souvent nous passons par des épreuves, nous allons l'appeler comme ça, et nous gardons cela pour nous. Et malheureusement, nous ignorons que il y a beaucoup de personnes qui passent par des difficultés et que ce que nous pourrons dire va leur faire du bien pour traverser cette épreuve. Et c'est le but de notre démarche. Nous avons passé une année, comment pourrions-nous qualifier cela, Cathy ?
Horrible.
Compliqué ? Effectivement, depuis quelque temps, nous vous disions que nous avions un témoignage à partager avec vous et nous avons pris notre temps parce que ce n'est pas anodin, c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose de très intime, mais nous avons l'intime conviction qu'il fallait le faire. Alors, nous avons entendu d'avoir la force de le faire, et puis donc nous voilà ce soir. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer ce témoignage que nous avons essayé de découper en plusieurs parties, parce que c'est quand même un an de vie presque. Donc, merci pour votre patience, et merci aussi de penser à nous dans vos prières, parce que voilà, nous sommes un peu stressés. Alors Cathy, je te laisse prendre la parole pour le début de ce témoignage.
Alors bonsoir à tous. Je sais que certains de nos amis ont répondu présents à l'appel. Je vous remercie. C'est toujours un... Moi j'aime beaucoup témoigner, je vous l'ai dit, hein. Souvent, on hésite à témoigner alors qu'un témoignage ferait beaucoup plus de bien à ceux qui l'entendent qu'on pourrait le penser. Tout commence au mois de février de l'année dernière. On est durant la première quinzaine du mois de février et David et moi, on se dit voilà, ce serait bien de partir en vacances. Donc on réfléchit un petit peu où aller. On aime bien visiter l'Europe. Donc on décide de partir pour le Portugal. Et puis, quelques jours avant de partir, eh ben, une bonne nouvelle s'annonce via un test de grossesse. David n'a pas voulu le croire sur le coup. Mais voilà, le test est positif. Donc, grande joie. Oui. On part au Portugal en plus pour fêter ça, donc c'est top. Le voyage se déroule très bien.
Grâce à Dieu.
Grâce à Dieu. On passe une semaine très agréable au Portugal. Et on revient un dimanche. Dans la foulée, on va à l'église pour une répétition, pour une réunion.
Oui.
Et déjà là, je sais pas de combien de temps je suis enceinte, mais je commence à sentir les nausées. Bon, alors quand c'est le début de la grossesse, les nausées, bon, les femmes apprécient. Sauf qu'à la longue, ça commence à devenir compliqué. Les nausées ont commencé à s'accentuer véritablement. J'ai commencé à perdre du poids considérablement. D'abord 5 kilos, 10 kilos. 15 kilos, 20 kilos, j'arrive pas à boire de l'eau. Je rêve que je bois de l'eau, mais je n'y arrive pas. Du coup, la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir boire, c'est le brumisateur. Tout ce que je mange, je ne le garde pas. J'arrive à peine à me lever. J'ose même pas me regarder dans le miroir parce que je sais que la perte de poids a été considérable. Donc, un soir, David me regarde et il me dit « Il faut absolument que je t'emmène à l'hôpital parce que si je t'emmène pas là, je sais que tu vas mourir cette nuit. » Donc, il m'amène à l'hôpital. À l'hôpital, rien qu'à me voir, j'arrivais à peine à me déplacer, mon visage était gris. Ils comprennent qu'il y a un problème. Je leur explique que ça fait près de 2 semaines et demie que je n'ai pas véritablement bu ni mangé, que j'ai déjà perdu 20 kilos. Donc ils me disent, écoutez madame, il va falloir vous hospitaliser. À savoir que j'ai une grande phobie de l'hôpital, des piqûres, des médecins. Donc c'est pas du tout une bonne nouvelle. On me met sous perfusion. Et là, on m'explique que la politique pour les femmes qui sont dans mon cas, c'est de les isoler pendant 3 jours et 3 nuits. Donc pendant 3 jours et 3 nuits, on me confisque entre guillemets mon téléphone, on ferme les volets et je suis dans le noir total. Voilà. On me fait voir une psychologue qui m'explique qu'au fond de moi, c'est un rejet de l'enfant, que j'aimerais que l'enfant meure. Donc je leur explique que ce n'est pas le cas, mais ils me disent que j'ai un comportement suicidaire. Et que pour ça, ils vont devoir m'isoler. Donc pendant 3 jours et 3 nuits, j'ai aucun contact, si ce n'est avec l'aide-soignante qui me dépose ma nourriture et le médecin qui vient voir si les examens, enfin
qui vérifie les examens.
Voilà, qui vérifie les examens. Donc j'aime autant vous dire que 3 jours 3 nuits dans une chambre qui n'est pas la vôtre, sans lumière du jour, sans téléphone. C'est horrible. C'est vraiment horrible. J'étais alimentée sous intraveineuse. Au bout de 3 jours, on me permet de revoir enfin mon mari, de reprendre contact avec les gens. J'ai la vision et les idées noires, parce que je n'ai pas vu la lumière du jour depuis 3 jours. 3 jours, ça peut paraître peu, mais en termes de minutes et d'heures, c'est extrêmement long. Donc même à regarder le ciel, c'est fortement désagréable. Ça me donne mal au crâne. Enfin voilà, je suis pas dans une très bonne position. Au bout de quelques jours, on me laisse rentrer à la maison, mais les vomissements recommencent. J'avais dit à ma mère que j'avais perdu du poids, mais je ne lui avais pas dit combien de kilos exactement. Donc là, on dit un peu à ma famille que là, ça commence à devenir compliqué. Qu'on a besoin d'aide parce qu'on sait pas quoi faire et que moi je ne veux pas retourner à l'hôpital pour revivre ça encore une fois. Donc ma mère et mes sœurs viennent à la maison. Quand ma mère ouvre la porte, je vois déjà les larmes dans ses yeux. Je vois le visage de mes sœurs qui se décompose. C'est très douloureux. Ma mère va dans la salle de bain. Elle revient, je sais qu'elle a pleuré. Mes sœurs me regardent avec beaucoup de peine. J'ai besoin d'aide pour aller aux toilettes. Je n'arrive pas à manger. Donc ma mère me dit, écoute, je ne savais pas que la situation était aussi grave. Mais ce que je vois là, c'est qu'il y a quelque chose de spirituel qu'il nous faut traiter. Donc mes sœurs, ma mère se mettent à prier pour moi. À intercéder comme jamais. Je me mets à trembler, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, là, le combat spirituel commence. À savoir que quand on a des problèmes, on pense souvent que bon, il n'y a pas de, comment dire ça, d'intervention spirituelle derrière. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'il y a, quand on parle de combat spirituel, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. J'ai senti tout le poids du monde sur mon dos. Et j'ai supplié Dieu de m'aider. Ils ont prié, on a prié pratiquement 3 heures non-stop. Demandant à Dieu ce qui se passait, s'il y avait quelque chose dans notre vie, dans notre famille qui avait suscité cela. Après la prière, j'ai réussi à manger un peu de viande. À savoir que j'avais arrêté la viande depuis plusieurs mois, mais c'était la seule chose que j'arrivais à manger. Ma sœur me propose d'appeler des personnes de son église pour prier. Je suis pas très motivée parce que mon esprit est vraiment à terre. On reprit. Et là, un combat spirituel recommence. Je suis encore plus faible, je vomis comme jamais. Je tombe par terre. Elles me relèvent, elles me disent de me tenir debout. Impossible de me tenir debout. Et là, je dis à Dieu, Seigneur, j'en peux plus. J'en peux plus. Il faut là que tu fasses quelque chose. Et là, j'entends comme une voix qui me dit « Je viens te chercher dans la tombe aujourd'hui. » C'était clair. J'avais entendu cette voix me dire « Je te sors de la tombe. Je viens te chercher dans la tombe aujourd'hui. » Sur mon visage, ma mère a compris qu'il s'était passé quelque chose. Je lui ai dit ce que j'avais entendu. On a continué de prier. Quand on a prié, on a compris qu'il y avait des choses dans ma famille qui n'allaient pas. Donc on s'est demandé pardon mutuellement. J'étais en conflit ou plutôt distante avec ma mère depuis des années. On s'est expliqué. On s'est demandé pardon. J'ai appelé mon père aussi. On s'est expliqué. Dans ma famille, voilà, en un seul jour, des problèmes qu'il y avait depuis une quinzaine d'années se sont réglés. Parce qu'on avait compris qu'il y avait... Derrière ça, il fallait que ma famille... Enfin voilà, on ne pouvait pas prier si les problèmes n'étaient pas réglés. Donc, première bonne nouvelle, la famille s'est réconciliée, la famille est unie.
Amen.
J'arrive un petit peu à manger, mais c'est toujours pas ça. Je revomis toujours. Les jours passent. De nouveau, David me dit, il faut absolument que je t'emmène à l'hôpital. Parce que si je ne t'emmène pas à l'hôpital, tu vas mourir. On retourne à l'hôpital. Ils me reconnaissent. Ils me disent, écoutez, on va vous redonner le même traitement. Mais il était hors de question que je reste 3 jours, 3 nuits de nouveau isolé. Donc je leur explique que ça ne va pas être possible. Mais ils me disent, écoutez, madame, là, vous êtes déshydratée, en fait. On vous laisse peut-être 2-3 jours, mais après, c'est la fin. Parce que là, votre corps ne résiste plus, en fait. Vous n'avez plus rien, vous avez trop maigri. Là, c'est vraiment critique. Donc, on me ramène dans une chambre et on m'administre un médicament qu'on donne aux suicidaires. Je ne savais pas ça, mais sur le coup, j'ai senti que mes pensées n'allaient pas, qu'il y avait vraiment un problème. Donc, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais que tu as suscité des médecins, mais là, ce qu'ils m'ont injecté n'est pas normal. Je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à réfléchir, mon esprit est tourmenté, mon esprit est sombre. J'ai des pensées qui ne sont pas mes pensées, donc fais quelque chose. Quand je termine de prier, je comprends que il faut que je parte de l'hôpital. Donc j'appelle un médecin, je lui dis écoutez, je sais que j'ai le droit de dire que j'ai envie de rentrer chez moi. J'ai compris les risques, mais j'ai compris qu'il ne faut pas que je reste ici. Il me dit, c'est votre droit, mais écoutez, attendez encore une demi-heure. Une demi-heure passe, je rappelle le médecin, c'est une infirmière qui arrive. Je lui explique, écoutez madame, je souhaite signer une décharge et sortir de l'hôpital. Elle me dit, d'accord, pas de problème, patientez encore. Au bout de 3 heures, je suis toujours là à quémander, à demander de vouloir sortir. J'appelle David, je lui dis, écoute, il faut absolument que tu viennes parce qu'ils m'ont injecté un produit. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Là, ça va pas du tout, du tout, du tout. Donc David arrive vers minuit, il arrive à l'hôpital, sauf qu'on lui refuse l'entrée de l'hôpital. Et ils me disent, moi, que je ne peux sortir que si mon mari rentre, en fait. Donc voilà, on arrive à un dilemme, je sens qu'ils ne veulent pas que je sorte. Au final, je prie, et au final, ils cèdent, je signe la décharge et on rentre à la maison. Mais c'est compliqué, j'arrive toujours pas à boire ni à manger. Et je suis toujours aussi faible.
Ce soir-là, Cathy ne le sait pas, et elle le saura ce soir, mais à genoux, dans la maison, j'ai fait monter une prière à Dieu, une prière vraiment comme jamais. Et le moment était tellement difficile à vivre que j'en ai déchiré mes vêtements, de souffrance. Et j'ai demandé à Dieu la délivrance. Une véritable délivrance. Parce que nous étions mentalement, physiquement, à bout. Le lendemain, matin, j'ai dit à Cathy, aujourd'hui, tu pourras manger. Je lui ai préparé une plâtrée de pâtes. À la bolognaise, mais végétarienne. Et elle a mangé, elle a pris 2 bouchées, et puis on a attendu, parce qu'en général, c'est au bout de 5 minutes, s'il arrivait à garder, c'est que c'était bon. Et puis elle a mangé. Et elle a fini son assiette. Et ça a été la première fois qu'elle arrivait à manger un plat Depuis un mois. Voilà.
Voilà, je réussis à manger. Donc, je suis devenue gloutonne. Jamais autant mangé de toute ma vie. Mon estomac était très serré. C'était très douloureux. Mais j'avais tellement faim. J'avais tellement faim que voilà. Donc, on se dit que ça va aller, que le plus dur est derrière nous.
Oui.
J'ai déjà passé le cap des 3 mois. On m'explique que le taux d'hormones va commencer à redescendre et que tout va rentrer dans l'ordre. Donc voilà, j'arrive un petit peu à souffler et je remercie Dieu pour cela.
Oui. Et je vous confirme qu'à partir de cela, nous avons eu un petit moment de respiration. Je crois 2-3 semaines ou un peu plus. Et puis, nous avons récupéré des forces, mentales et physiques aussi. Et nous avons passé un week-end, et je profite pour faire un coucou à Gymna, Kitsia, Stéphane et Hubert, avec qui nous avons passé un week-end. Le week-end d'après, la famille de Cathy est venue. On a passé le sabbat ensemble. On a vraiment passé un bon moment parce que nous étions dans la réjouissance pour ce que Dieu avait fait pour nous. Ils sont partis. Et tout ce que nous venons de vous raconter, si on devait le comparer à un menu, ce serait l'apéritif. Parce que ce soir-là, nous allions rentrer dans le plat de résistance. Effectivement, ce soir-là, à 2h du matin, quand Cathy me réveille en sursaut, en criant « Chérie, quelque chose ne va pas !» Je sors de mon réveil, paniqué, en espérant être encore dans un mauvais rêve. Je regarde autour de moi, j'allume mon portable et du sang. Partout, partout. Je sors de mon lit en sursaut. Je me mets debout contre un mur parce que mon souffle est coupé et il me faut bien 15 secondes pour réussir à respirer à nouveau. Je tombe à genoux. Ça a été mon premier réflexe. Et j'ai fait monter une prière qui a duré 2 secondes. En me relevant, je saisis mon portable et j'appelle les pompiers. Dans ces moments-là, les minutes sont très longues. Et quand les pompiers arrivent, enfin, ils montent dans la chambre. Il y a une chose qu'ils ont dit. Et lorsqu'ils l'ont dit, j'ai compris que la situation était compliquée. Ils ont dit, ah oui. C'est du sérieux. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à s'agiter autour de Cathy. Bref, nous partons à l'hôpital. Nous arrivons à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le visage du personnel est fermé. Le regard est grave. Après examen, il s'agit d'une ouverture du col. Oui. À 4 mois, c'est ça?
4 mois.
L'ouverture du col. À 4 cm. Alors, nous sommes maintenant à 23 semaines, à peu près, et Cathy est conduite dans sa chambre après plusieurs examens et plusieurs injections. Et les infirmières tentent de nous rassurer en nous disant que ça va aller, que on n'est pas sûr que la poche des os est fissurée, donc ça devrait aller. Le lendemain, nous apprenons que la poche est fissurée. Nous apprenons que le liquide amniotique s'échappe. Donc, hémorragie, liquide amniotique qui s'échappe. Cependant, nous passons quand même un dimanche ensemble. Et le soir, je rentre à la maison. Sauf qu'à 1h du matin, je reçois un coup de fil. Je me réveille à nouveau en sursaut pour une deuxième nuit consécutive. Je prends mon téléphone et j'entends Cathy qui me dit « Chérie, viens vite, le travail a commencé ». Je me rends à l'hôpital donc. Sans poser de questions, j'arrive à l'hôpital. L'infirmière n'ose même pas me regarder parce que la veille, elle essayait de nous faire garder espoir, mais là, elle a compris. Elle ne nous regarde même plus. Pour bien comprendre la situation, il faut comprendre que la législation française permet aux médecins de réanimer l'enfant à partir, et je dis bien à partir de 24 semaines, en sachant que même à 24 semaines, parfois, ils ne le font pas. Estimant que l'enfant n'est pas viable. Ainsi, rapidement, nous comprenons que la situation est compliquée. Nous comprenons que si l'enfant vient maintenant, il ne survivra pas. On nous explique alors, en gros, que votre enfant ne va pas tarder à venir au monde et que nous ne pourrons rien faire car la réanimation n'est pas autorisée. Voilà ce qu'on nous dit. Vient alors l'anesthésiste qui fera la péridurale à Cathy. On me demande gentiment de quitter la pièce. Cathy a des contractions toutes les 2 minutes. Pour ceux qui le sachent, ça veut dire que la fin, enfin en tout cas le dénouement est proche. Alors je vous explique encore en gros la situation de ce qui se passe dans notre tête. Ça veut dire que la prochaine fois que je rentrerai à nouveau dans la salle d'accouchement, ce sera pour, comme disaient les médecins, dire au revoir à notre enfant. Moment qui selon eux durerait de quelques minutes à quelques heures, en fonction de sa force à cet enfant. On m'isole alors dans une pièce. Une infirmière vient me parler. Elle emploie des mots certes bien réfléchis et doux, mais d'une douce violence. Il faudra réfléchir aux obsèques, me dit-elle. Il faudra réfléchir à si nous désirons la garder sur notre livret de famille. Alors je la regarde et je lui dis, écoutez, nous parlerons de ça après. Elle me demande comment je vais et je lui dis, je suis serein. Et elle part. À cet instant précis, nous sommes comme au milieu de nos séances, sans rien, rien, sur lesquels nous raccrocher. Rien d'humain en tout cas. À ce moment-là, j'envoie furtivement un SMS à la sœur de Cathy, avec qui nous prions régulièrement, et elle me rappelle en disant « David, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel, car cet enfant vivra. Garde la foi. » Les minutes passent, et après, je pense 15 minutes, on vient me dire donc de rentrer dans la salle d'accouchement. Ainsi, je comprends que je vais devoir affronter la dure réalité. Je rentre dans la pièce et je regarde Cathy, mais bizarrement son visage est serein. Mes yeux font alors le tour de la pièce, mais je ne vois rien du tout. Que se passe-t-il? Où est mon enfant? Je regarde Cathy, elle me dit, ils vont t'expliquer. Voici donc ce qui s'est passé dans la pièce pendant que j'étais à l'extérieur.
Alors les amis, je suis sur la table d'opération. Un anesthésiste me dit, écoutez madame, étant donné que vous avez des contractions, on va déclencher l'accouchement et puis on va vous laisser le temps de dire au revoir à l'enfant. Donc on me dit, on va vous faire une péridurale. Donc on me demande de bien vouloir m'asseoir. Je m'assois. L'anesthésiste me demande mon poids, enfin voilà, me pose les questions qu'un bon anesthésiste doit poser. Et en fait, au moment où il s'approche de mon dos, je dis juste à Dieu, si tu es le Dieu de Moïse, fais quelque chose. À peine je dis ose que j'ai un malaise et que je commence à m'évanouir. L'anesthésiste se recule et me dit, madame, que se passe-t-il? Et je lui dis, écoutez, j'ai la tête qui tourne, je me sens pas bien. Et il dit à la sage-femme, écoutez, je ne peux pas l'anesthésier dans ces conditions, il faut absolument qu'elle garde ses moyens. Donc je m'allonge, on me demande de respirer, de faire en sorte de supporter les contractions. Ben, je respire, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Je pense même qu'ils m'ont oublié au final. Ils reviennent 10 minutes après. Bah alors madame, on ne vous entend pas, qu'est-ce qui se passe? Donc je leur dis, écoutez, bah écoutez, ça va très bien pour moi. Les contractions se sont arrêtées, mais je sens quand même quelque chose dans le bas de mon ventre. Ils regardent et ils me disent, écoutez, le pied de l'enfant est engagé, nous voyons le pied de l'enfant. Voilà ce que vous sentez. Bah, ok, je sens le pied de mon enfant, mais je n'ai plus de contraction.
Suite à cela, la sage-femme, rentre dans la pièce et lui dit, écoutez, si les contractions se sont arrêtées, nous allons essayer quelque chose. Nous allons essayer un traitement. Si mon souvenir est bon, il s'agissait de Tractocyl ou quelque chose comme ça. pour empêcher les contractions de revenir. Mais attention, il y a 10% de chance que cela fonctionne. Chers amis, je ne sais pas si vous croyez en Dieu, mais le Dieu que je sers a utilisé cet espace de 10% pour agir. Et ce traitement a fonctionné. Ainsi, Cathy et moi étions là. Statu quo, nous sommes dans la salle d'accouchement. Ils nous ont laissés là. Nous ne savons pas quoi faire. Nous somnolons un peu. Nous prions beaucoup. Et puis, le temps passe et finalement, l'équipe, il y a un roulement d'équipe. Et là, nous voyons arriver une dame, une infirmière qui prend la relève et qui nous dit, voilà, écoutez, voilà la situation. Votre femme a le col ouvert à 8 cm. Le pied de l'enfant est engagé. Elle a des hémorragies et le liquide amniotique s'en va. En plus, nous voyons les constantes changer et il se peut, et nous sommes à peu près sûrs qu'elle est en train d'avoir une infection. Puis elle commence à nous dire les choses plus concrètement. Elle nous dit, écoutez, il y a de fortes chances que vous ayez une infection et votre femme peut avoir un œdème au cerveau ou au rein. Et de toutes les façons, l'enfant sera en plein dans l'infection et ça va être très très compliqué. Elle nous dit, qu'est-ce que vous voulez faire? On lui a dit, écoutez, nous on continue et on se battra pour cet enfant. Alors elle part. Et elle revient quelques minutes plus tard et nous dit, écoutez, ce qu'on va faire, cet hôpital dans lequel vous êtes n'est pas suffisamment compétent pour accueillir l'enfant. Et quand bien même il arriverait, sachez que vous êtes à 23 semaines. La législation ne nous permet pas de prendre en charge l'enfant. Et elle nous dit, pour être dans les 24 semaines, il faudrait que l'enfant tienne dans cette condition 7 jours. 7 jours. Col ouvert à 8, avec des hémorragies. Elle part un instant et là nous nous mettons à prier. Parce que nous savons que Dieu a déjà opéré et qu'il le fera encore. Et elle revient. Et nous dit, écoutez, nous avons recalculé. Ce n'est pas 7 jours qui devraient tenir, mais 3 jours. Alors, l'espérance est en train de remonter en nous. Et nous voyons que Dieu est en train d'agir. Et elle nous dit, voilà, nous allons faire venir l'enfant. Quand l'enfant arrivera, on va vous transférer dans cet hôpital. Et on lui dit, ok. Elle repart et elle revient quelques minutes plus tard. Et elle nous dit, écoutez, on a trouvé une chambre à Cergy, à l'hôpital de Cergy. Alors, nous commençons à devenir confiants. Et puis, elle repart. Et puis, lorsqu'elle revient cette fois-ci, elle nous dit, écoutez, on part. Nous avons contacté une ambulance, vous partez maintenant dans cet hôpital. Alors nous voilà sur le départ. Petit clin d'œil de Dieu, au moment où nous allons partir, un brancardier arrive, un grand gaillard, et il se met à chanter Amazing Grace. Et là, nous savons que Dieu est au contrôle. Alors nous partons. Arrivé dans cet hôpital, nous arrivons devant un parterre de médecins, pédiatres, infirmiers, qui est là pour nous jauger la situation. Alors ils nous posent des questions, ils nous demandent comment nous sentons. Ils nous parlent de ci, de ça. Ils nous disent, écoutez, votre enfant, vous savez, il y a ceux qui sont des cancres dans des écoles, il y a ceux qui sont surdoués, et puis il y a ceux qui sont même pas dans la classe. Et votre enfant, il risque de ne pas être dans la classe. En gros, il est en train de nous dire, votre enfant ne sera pas adapté à cette société. Cet enfant ne sera pas viable. En gros, il essaie de nous décourager. Mais nous comprenons que c'est son métier. Nous comprenons qu'il reçoit des ordres. Et nous comprenons aussi qu'il ne veut pas nous laisser de faux espoirs. Mais nous avons un espoir au fond de nous. Il nous regarde. Et il nous dit, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Et on leur dit, si vous nous dites qu'il y a 0,02% de chance que ça fonctionne, alors nous continuons. Alors il nous regarde et il nous dit, vous savez, à ce moment-là, normalement, nous voyons les parents en pleurs. Nous lui disons, mais il n'y a pas de souci, nous sommes sereins. Et c'est ainsi que ils nous font monter dans la chambre, dans une chambre, et ici commence un périple, car l'objectif est de tenir 3 jours. Lorsque nous entrons dans cette chambre d'hôpital, nous nous rendons compte que la situation est compliquée. Mais même si le personnel ne nous le dit pas, nous savons qu'ils sont pessimistes. Pendant ce séjour, donc je vous rappelle que Cathy est dans une chambre dans le service de néonatologie, qu'ils craignent une infection et que nous ne pouvons pas avoir les résultats tout de suite. Donc, nous sommes là dans cette chambre et nous recevons une visite au bout de 3 jours. Il s'agit d'un des médecins de l'ancien hôpital, le premier, qui vient voir comment va Cathy, qui a fait le déplacement, et qui nous dit, vous savez, ce qui s'est passé, c'est un miracle. Nous ne comprenons pas comment votre femme tient encore avec cet enfant dans le ventre, avec son pied engagé, le col ouvert, des hémorragies et le liquide amniotique qui s'échappe. Et les jours passent. Nous sommes maintenant à 5 jours. 6 jours, alors qu'il devait tenir 3 jours. 7 jours. Mes amis, notre Seigneur est un Dieu bon. Au bout de 15 jours, dans cette situation, et rien n'a évolué, toutes les constantes sont pareilles, et les hémorragies continuent, et tout continue.
Je voudrais juste rajouter que durant 15 jours, les échographies étaient impossibles à faire, parce que les échographies se font grâce au liquide amniotique, et il n'y en avait, plus. Oui. Il n'y en avait vraiment plus. J'en perdais tout le temps, je perdais du sang tout le temps. En fait, les médecins ne comprenaient pas ce qui se passait. On entendait juste le cœur de l'enfant battre. Et je le sentais bouger, mais vraiment très, très, très rarement.
Et à cause de cela, nous ne savions pas si c'était une fille ou un garçon. Alors, nous avons continué donc ces 15 jours, jusqu'au jour où le travail a commencé, a recommencé donc. C'était un samedi, me semble. Et alors que nous étions là, tranquillement, en une fraction de seconde, tout s'est chamboulé. Et nous avons vu débarquer des médecins et qui nous ont dit on descend en table. Alors Cathy part, pardon, je la suis, nous descendons et tout s'est enchaîné. Ils se rendent compte qu'il va falloir faire une césarienne. Alors on n'aime pas entendre ce mot là, n'est-ce pas? Mais dans cette situation, on se dit que on prend tout. On me dit de sortir, on m'isole dans une pièce. Mais là, cette fois-ci, je suis serein. Une fois de plus, j'envoie un SMS à la sœur de Cathy. Et je lui dis, c'est maintenant. Et là, toute une église se met en prière pour nous. Et nous voulons les remercier. Il s'agit d'un groupe de maraîchers qui se mettent à prier pour nous. Et nous sommes sereins, donc. Et puis, au bout de, je ne sais plus, 15 minutes peut-être, 20 minutes, on vient me dire, c'est une fille! Et nous avions déjà un prénom. Dieu a donné. Naïla. Alors j'accours. Mais on me dit, vous ne pourrez pas voir votre femme. Et vous ne pourrez pas voir votre fille très longtemps. Elle passera rapidement dans sa couveuse. On me dit, restez là dans ce couloir. Et ils vont chercher l'enfant. Et ils passent. Et je vois arriver cette couveuse, donc, faite de plexiglas. Mais je ne vois rien là-dedans. Et lorsque je regarde, en fait, il y avait ce petit être de 517 grammes, les yeux ouverts, avec tous ses cheveux et pleine de vie. Il emmène donc dans sa chambre. Les épreuves continuent parce qu'il faut savoir qu'un enfant qui naît à 517 grammes s'apprête à affronter de multiples difficultés. Mais je vais vous abréger ce moment qui a duré 3 mois. Mais j'aimerais quand même vous dire que ça a été une épreuve terrible car tous les jours, il fallait que nous soyons là auprès de Naïla. Tous les jours, Cathy se levait, je la déposais. Tous les jours, je venais la récupérer lorsque je devais travailler. Nous avons eu droit à beaucoup de choses, beaucoup de difficultés. L'enfant, en fait, à la première semaine, était vraiment presque en lune de miel, comme ils disent, c'est-à-dire avec les constantes vraiment très bonnes. À partir de la deuxième semaine, les choses ont commencé à devenir compliquées. La deuxième semaine, les choses sont devenues très compliquées. Très très compliqué. Alors que tout allait bien, il y a eu infection, il y a eu intubation, il y a eu oxygénation. Pour savoir, l'oxygène que nous respirons fait 25%. Et l'enfant, en fait, avait besoin d'au moins 50% d'oxygène. Alors c'était compliqué, très compliqué. Nous avons passé infection sur infection. Au bout d'un certain temps, ça devenait encore plus compliqué. Un jour, nous arrivions et un médecin nous a dit, écoutez, il s'est passé quelque chose cette nuit et il se peut que votre enfant ait une hémorragie cérébrale. Mais nous ne savons pas, nous aurons le résultat le lendemain. Et nous avons prié. et beaucoup de gens ont prié. Partout dans le monde, en Martinique, à Lyon, en Guadeloupe, en France, des églises, Paris Sud, maraîchers, ont prié pour nous. Pendant toute cette période, nous ont soutenus. Et je ne pouvais pas ne pas remercier tous ces gens qui ont été à nos côtés lorsque nous étions au milieu de la tourmente. Dieu a opéré des miracles, une fois encore, car l'enfant a réussi à sortir victorieuse de cette situation. Mais ça n'a pas été sans peine. Un jour, nous sommes arrivés pour terminer sur cette partie à l'hôpital. Et ils avaient dû activer une option de respiration, mais traumatisante, où l'enfant, ils appellent ça respiration haute fréquence, où en fait l'enfant, tout son corps tremblait sous la vibration du respirateur. La vue de cette chose était insupportable pour nous. Et ça a été très dur. Mais Dieu a été victorieux. Et quelques semaines plus tard, vous savez quoi? Nous arrivons et on nous dit, votre enfant s'est extubé toute seule. Nous n'avons jamais vu ça, mais nous laissons les choses telles quelles et nous regardons comment les choses vont évoluer. Oui, pendant la nuit, l'enfant avait tiré sur son câble d'intubation et il s'était extubé. Quelques temps plus tard, elle allait de mieux en mieux et il a fallu la transférer dans un hôpital où elle avait besoin de moins de soins. Et en plus, cet hôpital était à 5 minutes de chez nous. Et tout s'est passé très bien, sauf que le personnel n'était pas très optimiste sur le fait qu'elle puisse rentrer chez nous sans des bouteilles d'oxygène. Et vous savez quoi? Quelques temps plus tard, Naïla était à la maison sans bouteille d'oxygène. Avant même la date, on nous avait dit décembre, elle est rentrée à la maison début novembre, par la grâce de Dieu. Au sein de cette tribulation, nous avons eu des hauts, des bas, et nous voulons encourager ceux qui passent par des moments compliqués, parce que dans ces moments-là, on se dit qu'on est peut-être seul, mais n'hésitez pas à prier, à prier avec d'autres personnes, à vous faire entourer, parce que vraiment, ça a été la clé de cette situation. Mais il y a plus que cela. Je me suis demandé, et si nous n'avions pas prié, qu'est-ce qui se serait passé? Je ne peux pas répondre à cette question, mais je crois une chose, c'est que notre Dieu est suffisamment puissant pour faire ce qu'il a envie de faire sans que nous ayons à prier. Alors quoi? Je crois fermement que Dieu avait un objectif. C'était de nous transformer, nous, les parents de Naïla. De faire grandir notre foi, pardon. Et l'objectif, et nous disons merci Seigneur pour cela, a été atteint. Parce que, il ne faut pas se cacher, nous avons eu des moments où nous ne croyons pas. Nous avons eu des moments où nous avons baissé les bras. Nous avons eu des moments où nous étions vraiment au creux de la vague, au bout du bout. Et tout chrétien comme nous sommes avec près de 20 ans de baptême, nous étions parfois vraiment dans un état critique, à la limite de tout plaquer. Mais à chaque fois, il y a eu quelqu'un pour prier avec nous, pour nous. Il y a eu quelqu'un pour prendre des nouvelles. Et oui, je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont été là. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez été un vrai secours pour nous. Alors rapidement, je vais remercier le groupe de Chambly, remercier l'église de Paris Sud, les diacres de Paris Sud qui ont jeûné et prié pour nous, remercier l'église de Maraîchers et particulièrement le groupe de la sœur de Cathy qui ont jeûné et prié pour nous, avec nous. Remercier un groupe que nous ne connaissons même pas à Lyon, des groupes aux Antilles, à Neuilly, à Franconville, tous les amis qui ont été présents aussi. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous.
Eh bien les amis, nous voilà papa et maman. Par la grâce de Dieu. Alors moi j'aurais une petite pensée pour les couples qui cherchent à avoir des enfants. C'est vrai que dans nos églises c'est assez tabou. Des personnes se sont rapprochées de nous disant qu'ils essayaient d'avoir des enfants, que c'était compliqué. Les amis remettaient tout dans les mains de Dieu. On ne vous l'a pas forcément dit, mais l'année dernière j'avais fait une fausse couche au bout de 3 mois. Ça a été très douloureux. Par la suite, j'ai su que des personnes de l'église avaient rencontré la même difficulté. C'est dommage qu'aujourd'hui, que dans nos églises, on ait honte ou peur, ou qu'on n'ait pas envie d'en parler. Je me serais peut-être rétablie plus facilement si j'avais osé en parler à cette époque-là. En tout cas, sachez que si nous nous disons frères et sœurs, c'est que nous pouvons parler de choses qui nous touchent, qui sont intimes. Et je vous encourage vraiment en ce sens, une fois que la glace sera brisée, l'Esprit de Dieu pourra vraiment opérer. Voilà, j'encourage les couples, ne vous découragez pas, remettez votre sort à l'Éternel. Je remercie encore une fois les amis et ceux qui ont prié, qui ont jeûné, qui ne nous connaissaient parfois même pas, mais qui avaient entendu parler de nous. Les amis, moi j'ai appris ce que c'était vraiment la prière. Le petit Notre Père qu'on apprend par cœur. Il faut qu'on arrive à pas s'en défaire, mais qu'il faut aller plus loin. Jésus nous a donné une manière de prier, mais maintenant il nous faut expérimenter la prière. Parce que le Dieu de Moïse est toujours le Dieu de Moïse. Et il est toujours vivant aujourd'hui. Voilà, mon encouragement pour vous, c'est ne baissez pas les bras. Je vous assure que nous, les médecins, nous ont dit qu'il fallait abandonner, que l'enfant ne survivrait pas, que j'avais de fortes chances de mourir, que l'enfant aussi. On nous a encouragés à pas abandonner l'enfant, mais à laisser tomber, très clairement. Tenez bon, et le Dieu que nous servons est un Dieu puissant.
Vous avez un petit message de Naïla. Qu'est-ce que tu veux dire aux auditeurs ? Voilà, en tout cas, elle est pleine de vie. Et nous rendons gloire à Dieu pour ça tous les jours. Elle pèse maintenant 5 kilos. Alors, merci Seigneur. Que son nom soit glorifié en toutes choses. Et si ce soir, vous ne croyez pas en Dieu, sachez que vous pouvez faire l'expérience. Ça ne vous coûte rien. Faites l'expérience et voyez ce qui se passe. Voilà le témoignage que nous voulions partager avec vous. Soyez tous bénis, j'espère que nous n'avons oublié personne, mais soyez tous remerciés pour tout ce que vous avez fait pour nous. Que Dieu vous bénisse tous.